Sales.
Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Sales, épisode 010. Et oui, déjà 10 épisodes. 10 épisodes égale plus ou moins 3 mois, même 4, hein, disons qu'on est au mois de mai. Donc très content d'être là, très content de vous parler. Vous parler de quoi ? Nip Sales, c'est un podcast qui vous parle de vente, de retail et de communication. On fait partie de la grande famille Nipcast qui a plein de podcasts différents. Et on est très content d'être là, comme un dimanche sur deux, pour vous parler principalement de vente. Alors moi, c'est Sai. Et avec moi, compadre, comme toujours, Marco, salut.
Salut Mickaël, salut à tous, bon dimanche.
Eh ben voilà, oui, c'est dimanche, oui, il est 19h, il est quoi? Il est 17h30, on essaye d'être régulier maintenant, on a trouvé la bonne heure, je pense, 17h30, c'est la bonne heure le dimanche pour le faire, on est content qu'il y ait des gens dans la chatroom, et voilà, donc on va commencer. Donc comme j'ai dit, comme à chaque fois, on parle un peu de ce qui s'est passé pendant ces deux dernières semaines, et on parle de Nip Sales en chiffres, donc parce que dans la vente, on parle de chiffres, donc là, où est-ce qu'on en est? À la 9e épisode, Marco, est-ce qu'on a augmenté, baissé, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, où est-ce qu'on en est? Je dirais que c'est un petit peu les montagnes russes en ce moment, hein. Donc, après deux éditions qui étaient en progression, nous voilà en recul à 760 downloads pour la 9e émission au lieu des 838 que nous avions atteint lors de la 8e émission. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, moi, je dirais que j'ai eu simplement un petit peu moins de retours sur LinkedIn, hein. Ça a bien moins marché que les deux précédentes éditions. Alors, est-ce qu'on avait un moins bon titre? Est-ce qu'on avait un moins bon pitch d'émission? Point d'interrogation, parce qu'on n'a pas eu de message non plus. Alors, pour la première fois, je crois, nous avons eu zéro message sur l'épisode 009. Donc, voilà, c'était peut-être un pur bide, ce 009, contrairement aux 008 et 007 qui ont bien fonctionné.
Bah écoute, à nos auditeurs de nous dire, moi j'ai une petite idée, je sais que finalement pour construire une communauté, je sais on l'a fait avec Niptech, il faut quand même aussi sortir de sa zone, pas de confort, mais aussi de la zone des gens qu'on connaît. On le voit, Patrick Béja l'a fait pour le Rendez-vous Tech, il faut inviter des gens du domaine pour qu'ils viennent parler et qu'eux aussi propagent la bonne parole de Nip Sales. Donc la prochaine, peut-être une des prochaines étapes, il faut qu'on en discute encore parce qu'on n'en a même pas discuté, ça serait bien de peut-être faire venir quelqu'un dans notre émission, un professionnel de la vente ou quelque chose, quelqu'un qui a des choses à dire sur la vente, pas forcément un professionnel. Et moi, c'est peut-être une demande. Si vous connaissez quelqu'un, une superstar, il doit parler français, hein, ben vous nous l'envoyez, marco_nip ou side, S-Y-D-E, vous nous dites, ah ouais, cette personne, elle est dans la vente, c'est vraiment cool ce qu'elle fait, pour que ça puisse nous donner des opportunités de parler avec elle et pourquoi pas l'inviter sur Nip Sales. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, Marco?
Alors moi je pense que c'est une brillante idée, j'ajouterai à la condition que la personne doit aimer la vente ou doit vouloir en parler, bah, qu'elle sache utiliser un ordinateur, hein, pas comme moi, qu'elle fasse pas une commande Q une minute avant de commencer l'émission, parce que ça risque de nous mettre un petit peu dans l'embarras.
Allez, c'est la technologie, tout ça, c'est simple maintenant, c'est facile. Alors, une dernière news perso de notre communauté, on veut dire un grand bonjour à une nouvelle émission qui a commencé dans la famille Nipcast, qui s'appelle Nip Educ. Donc Nip Educ, c'est quoi? C'est des professionnels de l'éducation qui parlent d'éducation à ceux qui connaissent l'éducation, donc plutôt du côté francophone en France. Et très bonne émission, j'ai écouté les premières 10-15 minutes, j'avoue, j'ai pas écouté toute l'émission, mais j'aime bien la paix, j'aime bien l'envie. Donc un petit plug à nos très chères personnes de Nip Educ. Maintenant, on est combien? On est une Nip Tech, Nip Dev, Nip Life, Nip Sales et Nip Edu et Nip Sport. Donc on est maintenant 6 dans la famille Nipcast. C'est vraiment génial de voir que ça grandit toujours. Donc un petit big up à nos amis de Nip Educ. Voilà.
Et peut-être pour rappeler un petit peu, hein, qu'est-ce que propose la famille Nipcast en termes de contenu podcast? Bah c'est simplement pour ces 6 thématiques, il y en aura certainement d'autres qui arriveront dans le futur, des passionnés, comme nous sommes passionnés, Saïd et moi, de vente, qui parlent de leur passion, on va dire, avec ce semblant de professionnalisme qui fait qu'on peut en retenir quelque chose à des gens intéressés par le même sujet. Donc Nip Educ, c'est simplement des profs qui parlent de leur expérience de prof, mais comme un prof en parlerait à un autre prof ou à des personnes intéressées par la pédagogie. Donc moi, je dois dire, le pitch, je le trouve excellent. Hein. J'ai toujours rêvé de me dire ce que disaient à la salle des maîtres, comme on l'appelle en Suisse, les professeurs. Et puis, bah, grâce à Nip Educ, on rentre un petit peu dans les coulisses. Donc moi, je trouve excellent et je salue vraiment ces nouveaux compères.
Ok, bien, un beau, joli pitch, Marco, j'avoue. Une belle petite vente, là. Tu m'as presque donné envie de lancer un petit coup. Donc,
on retournerait presque à l'école.
Allez, on retournerait presque à l'école, mais pas tant que ça. Allez, on va passer aux expériences de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer à vous parler de mon expérience de la semaine. Donc, allez, l'expérience de ma semaine, c'était quoi? C'est que, bah, vous savez, je suis dans la vente, je suis plutôt, bah, voilà, j'ai aussi, je manage aussi des vendeurs et tout ça. Et il y avait une énorme foire en France, vous savez, la foire de Paris où on y était. Donc, je me suis bougé comme ça, tac, le jeudi matin très tôt et je dis, allez, on va à la foire de Paris. J'ai été voir, très joli stand, très joli, une des plus grandes foires consommateurs d'Europe, hein, il faut le dire, hein, avec une énorme, super bien faite, super bien organisée.
Et quel voilà. Nombre de personnes, Mickaël?
Alors, je ne sais pas, je vous dirais des bêtises de sortir, mais je crois tout, entre 300 000 et 1 million, je crois. Mais je crois que c'est plus proche du million que les 300 000. Mais je vais revérifier à la fin, ça finit aujourd'hui dimanche. Alors, je suis allé, bien sûr, et ce qui était bien dans des foires, c'est que, bon, moi, je suis une personne, je vends aussi pas mal à des acheteurs, je parle avec des professionnels souvent, mais se confronter au client final à qui on vend son produit, c'est quand même toujours une expérience géniale. Parce qu'on tombe dans un espèce de chaudron ardent. Ce que j'adore dans les foires, et surtout les foires consommateurs, c'est finalement, on peut voir très beaucoup de choses en très peu de temps. C'est un espèce de condensé de la vie ou condensé des émotions, condensé de la vente. Et ça, c'est pour ça que j'adore les foires. Déjà tout petit, mon père m'amenait dans les foires, donc c'est un monde dans lequel j'ai trempé pas mal. Et ce qui était génial, c'est de pouvoir justement rencontrer ces consommateurs, leur parler, les voir, ceux qui avaient des soucis, les écouter, ceux qui avaient des choses incroyables à dire, les écouter et surtout ben, vendre. Donc, en tant que vendeur, j'aime toujours me mettre et pouvoir parler aux consommateurs. Et c'est bien parce que cette fois-ci, ça arrive pas chaque fois, mais quand même, normalement, ça arrive. J'essaie de faire que ça arrive. J'ai réussi à vendre. Donc, j'étais content. Et je sais que mes vendeurs à côté de moi, ils me regardent sans me regarder, bien sûr. Ils te jugent un peu, comme tout bon vendeur. Parce qu'un vendeur qui ne te juge pas, c'est pas. Voilà, quoi. Il te regarde comme ça avec intérêt et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir expliquer quelque chose. Et une des expériences que j'ai apprises, c'est que bah voilà, comme vous ou comme on a expliqué des fois dans l'Ipsales, on connaît les choses qui sont les trois choses qu'on doit faire pour vendre. On doit avoir un produit auquel les gens font confiance. Les gens doivent nous faire confiance à nous. Et les gens doivent faire confiance à notre entreprise. Donc, c'est les trois choses qui doivent être précisément là pour qu'une personne passe à l'acte d'achat. Donc, en posant des questions, tout ça, bah, la personne, elle vous dit « Ah ouais, je connais ça, ouais, j'ai une question sur le produit, tout ça. » On répond aux objections ou à ces questions. Et à la fin, venait le truc, est-ce qu'il faut faire le forcing pour la vente ou est-ce qu'il faut laisser la personne partir, réfléchir? Le montant est quand même assez conséquent.
Plus de 1 000 euros.
Ouais. Et toi, Marco, qu'est-ce que toi, tu penses? Est-ce que dans ces cas-là, il faut laisser partir la personne réfléchir ou il faut plutôt faire le forcing jusqu'à qu'elle signe directement?
Alors déjà, c'est un très bon point. Moi, j'ai envie d'y répondre avec une mini-intro. Moi, j'aurais beaucoup aimé être à ta place, c'est-à-dire avoir l'occasion de vendre dans une foire. La foire, moi, je l'associe. La foire est à un vendeur ce que une arène serait pour un gladiateur.
Oh, tellement juste.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Mickaël. Moi, je pense tout ce qui est place du marché, foire, c'est des endroits où il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés à un spectacle, celui de la vente et puis celui de repartir avec le produit qu'on a voulu ou pas, mais qui doit de toute façon répondre à un besoin. Et c'est vrai que moi, je me sens vibré dans ces moments et je pense qu'il y a beaucoup de ressentis dans ces échanges où on apprend énormément de choses. Alors, pour revenir à ta question plus spécifique, moi, je pense qu'il n'y a pas une réponse claire qui correspond à chaque cas. Je pense que dans la majorité des cas, effectivement, il faut laisser respirer un petit peu les personnes. C'est pas seulement valable dans les foires, c'est valable partout. C'est-à-dire qu'une vente qu'on sent comme une pression, a priori, elle va pas se faire. Et je dirais que d'une manière générale, oui, il faut pas perdre l'attention du client. C'est pour ça que beaucoup, on entend que voilà, il faut pas laisser partir le client. Mais d'un autre côté, et si c'est pour un achat de plus de 1 000 euros, donc presque un petit investissement, c'est normal que les personnes, elles aient envie de réfléchir. Puis à un moment, tu sais, moi, je sens. Oui. C'est les moments où j'ai nullement envie de demander quoi que ce soit, c'est que j'ai quelque chose à t'offrir. Et c'est comme un tas d'autres trucs, hein, c'est que si tu cours un petit peu trop derrière, eh ben, tu l'obtiens pas. Oui. Je crois que si tu es sûr de ton produit, si tu es sûr de ta prestation, hein, et si finalement tu crois avoir compris ou avoir identifié un besoin, a priori c'est dans la poche. Il peut même aller se boire un whisky ou revenir le lendemain. Pour moi, la vente, elle est déjà faite aux trois quarts. Donc, j'ai envie de te dire, même si tu n'avais pas eu des nouvelles de cette personne dans la foire, je suis sûr que tôt ou tard, elle aurait racheté ça, même dans une succursale ou dans un magasin X ou Y, et ta vente, tu l'aurais faite sans le savoir.
Oui, oui. Et c'est ça aussi le conflit du vendeur, parce que quand on a un produit qui n'est pas seulement à un endroit, on doit fermer la vente pour pouvoir, ben, comme vendeur, toucher sa commission. Et c'est aussi un challenge d'avoir des produits comme ça présents un peu partout. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé réfléchir. J'ai dit, bon, ok, non, je vais revenir. Voilà. Moi, j'ai dû courir reprendre mon train pour retourner en Suisse. Bien sûr, j'ai appelé mon responsable 30 minutes plus tard pour savoir s'ils étaient revenus. Et j'étais content de savoir que oui. Donc, voilà l'expérience. Et ce bonheur de vendre, franchement, j'ai pu vendre des centaines ou même des milliers de pièces à des acheteurs. Mais la vente à la personne directe, moi, je trouve que c'est mieux que gagner dans l'arène, quoi. C'est une expérience qui est assez hallucinante. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une télé, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes dans la vente et une fois vous vendez à ce consommateur, c'est-à-dire il vous fait confiance pour vous donner de l'argent ou pour croire le conseil que vous lui faites, que vous lui donnez, c'est vraiment merveilleux. Et je me suis vraiment dit, il faut vraiment que je retourne plus souvent, car c'est super cool de vivre ce moment-là. Voilà.
Non, dis-moi si c'est pour les mêmes raisons que moi. J'essaie de réfléchir à pourquoi est-ce que j'aime ça, parce que vraiment je partage ton point de vue, Michael, et je dirais j'ai l'impression que j'aime ça parce que j'ai compris un problème. Voilà, c'est-à-dire que d'habitude je vends à un acheteur dont le but est de faire plus de marge et plus de chiffre d'affaires.
Oui.
Tandis que là j'ai vendu parce que le type il a un problème et je lui amène le produit qui permet de résoudre son problème.
Oui.
J'ai le sentiment vraiment d'avoir fait une bonne action. Ça paraît terrible, peut-être pour les gens qui sont un petit peu moins vénaux que moi, mais j'ai le sentiment d'avoir fait une bonne action et d'avoir vraiment bien compris cette situation consommateur.
Et c'est vrai, c'est juste parce que finalement quand tu vends à un acheteur, l'acheteur il va le revendre. Donc tu dois faire le travail deux fois. Tu lui as peut-être vendu X pièces, mais tu as intérêt à ce qu'elle se revende derrière. Donc ça peut être après une promotion prix, une promotion avec un cadeau, quelque chose, mais tu as encore cette, entre guillemets, challenge de devoir la revendre. Tandis que quand tu l'as vendu à un consommateur, tu sais qu'il l'aura et puis qu'il l'aura chez lui. Mais ça aussi, c'est une bonne sensation. Voilà pour l'expérience de la semaine. Marco, à ton tour.
Ah, je vais enchaîner avec de la vente qui sort un petit peu des sentiers battus. J'avais titré à la base « Pas de badgeuse pour le vendeur ». Je l'ai un petit peu renommé entre deux. En fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'horaire pour vendre. J'ai le sentiment que les bons vendeurs, c'est finalement des guichets ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que il m'est arrivé, en fait, d'avoir ce sentiment de mettre le pied dans la porte et de commencer un acte de vente alors que je l'avais pas nécessairement prévu. Tu vois, j'ai listé deux, trois, quatre figures en fait où ça s'est produit récemment. Alors, je vais peut-être citer le premier où j'étais quand même au rendez-vous client. J'étais accompagné de mon ami Julien. On avait rendez-vous avec un de ses vieux clients qui est une entreprise de transport public et pour laquelle, on va dire, c'est un client au niveau de site internet. Voilà, il avait préparé le site internet de cette entreprise il y a plusieurs années. L'idée était de voir s'il y avait l'opportunité de faire un nouveau site internet à jour. Et c'est vrai qu'en discutant tous les trois, donc face au client, on s'est rendu compte que ce site internet, il arrive dans un contexte. Ce contexte, c'est celui d'un changement de marque, c'est celui de l'arrivée de nouveaux moyens de transport. Hein, donc, on parle de bus dans ce cas-là, qui permet de transporter plus de gens, qu'il fallait également parler de nouveaux abribus qui restaient également à déployer, puis qui me disaient, on ne va pas lancer le site internet tant qu'on n'a pas le déploiement des nouveaux transports et des nouveaux abribus. Et c'est là qu'on a réalisé en fait qu'une nouvelle compétence de notre part qui pouvait être utilisée, c'était simplement en posant cette question au client ou au prospect, de lui demander n'y aurait-il pas une opportunité finalement pour que les abribus que vous pensez déployer en coordination avec la municipalité, les municipalités de la région, puissent être vus comme des points de vente où il faut retenir l'attention, d'une part pour transmettre les bonnes informations, d'autre part pour vendre des tickets de transport. Et là, c'est clair que ça lui a méga parlé, cette question-là, qu'effectivement, il y avait un échange à avoir et puis que ce qu'on attend maintenant, c'est plus de contacts avec des entités qui décident pas d'un, en guillemets, petit site internet qui rapportera ce qu'il doit rapporter, mais aller de plus de 60, entre guillemets, points de vente qu'il faudrait déployer, je dirais, bah, dans un avenir qui reste à définir. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'avais pas du tout prévu, on va dire, de parler de points de vente, parce que c'est vraiment la spécificité de l'agence dans laquelle je travaille, qui est de penser, on va dire, des lieux pour qu'ils deviennent des lieux où il y a plus d'attraction de personnes qui, du coup, achètent plus, et bah, du coup, de repartir avec un projet qui pourrait être beaucoup plus intéressant d'un point de vue chiffre d'affaires et rentabilité que le site internet que nous avions en tête. Ça t'arrive de mettre le pied dans la porte comme ça, toi, Michael, que ce soit au travail ou en dehors du travail ?
Oui, je pense qu'en dehors du travail, oui aussi. Moi, ce que je fais, disons, je suis pas la personne, peut-être à tort, hein, qui est toujours en train de dire, ouais, moi je fais ça, vous voulez ça, voilà, je fais ça. Je le dis pas forcément, mais si je le fais peut-être pas assez. Je dirais ça comme ça. Après, ce que j'aime dans ton histoire, c'est le fait de poser la bonne question et de passer au-dessus de « Ah merde, je devais lui vendre un site internet, il en a pour 2 à 3 ans, même voire 5 ans pour faire tous ses abribus, le truc tombe à l'eau. » Et d'essayer de rechercher un autre besoin en posant des questions, en disant « Bah voilà. » Et puis, d'essayer de rechercher le vrai problème de la personne. Et là, tu l'as trouvé. Son vrai problème, c'est ses abribus, c'est tout ça qu'il doit faire avant de le faire. Et toi, tu imagines comment, parce que moi, je trouve ça intéressant. Or, qu'est-ce que tu imagines comme point de vente, un abri de bus? Qu'est-ce qu'on pourrait communiquer comme chose intéressante pour le consommateur, à premier avis?
Bon, moi, ce qui me fait triper, je trouve que les entreprises de transport ne le font pas assez actuellement, c'est ce lien qu'il devrait y avoir entre Internet et l'abri bus et le bus lui-même. C'est-à-dire que maintenant, Internet est en majorité utilisé en mobilité, que donc dans le cadre de la mobilité, nous avons les smartphones. À présent, il y a à peu près tous les contenus qui ont été structurés de telle manière à ce qu'on puisse facilement les voir sur le smartphone. Et pourtant, quand tu vas sur les sites Internet, j'ai envie de dire dégueulasses, des entreprises de transport, à part les CFF, donc qui est l'entreprise ferroviaire suisse, qui fait mesure d'exception, hein, avec une application hyper pratique.
SNCF aussi en français, très très bon.
Et qu'ils le font très bien, bah tant mieux pour eux. On se retrouve avec des sites qui sont pas en lien avec ce qui se passe sur le terrain. Un truc tout bête, c'est qu'il n'y a que dans le canton de Fribourg, en Suisse romande, donc dans la partie francophone de Suisse aujourd'hui, où on peut bêtement prendre son billet avec le SMS du smartphone.
Ah, tellement
donc,
simple.
Voilà, où tu commandes en 10 secondes, tu rentres le 973, sauf erreur, et puis en 10 secondes, tu as ton ticket de bus que tu dois seulement faire en dehors des tickets, en dehors du bus.
Oui, et ça, c'est une manière vraiment très simple. On sait qu'en Afrique, énormément de gens payent avec les SMS et les providers de téléphonie mobile, comme Swisscom, comme France Télécom, comme tout cela, sont en fait également des banques. Et on peut payer avec ces SMS. Moi, je paye avec mon SMS, mon journal, par exemple, le journal du dimanche que je vais chercher là, dans la caisse. Avant, il fallait payer avec des pièces que j'avais pas, donc des fois, on pouvait le prendre sans le payer. On est en Suisse, hein. Sachez qu'on peut prendre les journaux sans les payer et les boîtes sont toujours ouvertes et le fait de pouvoir le payer avec un SMS m'a permis ça. Et le nombre de fois que je suis devant pour prendre le bus et justement je me fais parce que j'ai pas les pièces, la monnaie nécessaire, je trouve ça génial. Moi, quand je vois ça, je vois, un, le mobile comme l'élément central, pas forcément le site internet, mais le mobile comme l'élément central. Deux, je vois toutes ces informations qui peuvent être données en temps réel, parce que pour moi, ça manque. Quand on prend le bus, souvent, on n'a pas cette information en temps réel. Et trois, la vente. La vente non seulement de services, de billets, de choses, mais peut-être utiliser cette plateforme pour vendre d'autres trucs, pour vendre d'autres produits, d'autres choses directement sur les abribus.
Mmh. Tu ne rates donc jamais une occasion, Michael. Moi, j'avoue que des informations comme la météo, tout simplement, parce que je suis en mobilité, donc des choses qu'on n'est pas forcément obligé de régulièrement mettre à jour. Hein. On n'est pas obligé d'être en lien avec un quotidien, avec un journal, pour pouvoir, je sais pas moi, displayer des informations quand les abribus. Je trouve que ça va un petit peu loin, mais une borne qui, en plus de donner l'horaire, qui est déjà essentiel, qui ne se retrouve pas systématiquement dans les abribus, permettre, on va dire, de cadrer, par exemple, un voyage qu'on pourrait imaginer aussi arrêter, voire s'arrêter autour d'étapes, restaurants ou autres. C'est-à-dire pas forcément de la publicité générale, mais de la publicité ciblée, géolocalisée par rapport à un lieu. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui ferait du sens. Mais dans l'absolu, avoir un point de vente qui informe déjà bien sur les horaires des transports d'une part et d'autre part, comment est-ce qu'on achète son ticket d'autre part. Il faut savoir que dans la région de Nyon, le ticket s'achète pas via un automate, mais dans le bus, chose que je ne savais pas, ce qui m'a fait en fait resquiller, maintenant vous pouvez vous boucher les oreilles, et ben c'est quelque chose qui serait pas mal, voilà, tout simplement. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Je dois dire qu'il y avait un autre exemple où simplement je discutais avec un ami, on était à l'apéro et on était amené à parler de nos activités respectives, on voulait faire le point de où est-ce qu'on en était. C'est là qu'il m'a parlé de son voisin de palier qui travaille chez Dinedeal, qui est en fait un site où tous les jours il y a un deal différent qu'on peut faire. C'est exactement le genre de boîte avec lesquelles mon agence aimerait travailler de manière un peu plus rapprochée. Nous avons déjà des expériences avec des concurrents de Dinedeal. Ben, c'est tout simplement un contact que j'ai réussi à avoir. C'est pas facile hein, de savoir qui est responsable d'un marché comme la Suisse romande quand elle n'est pas bien implantée et surtout pas bien implantée en environnement zurichois parce que c'est une entreprise zurichoise. Et ben, là, j'ai tout simplement pu me faire introduire par quelqu'un qui connaît très bien cette personne et un échange qui va être facilité par ce biais. Ouais. Et je dirais que chaque fois qu'on garde en tête qu'on a envie de solutionner des situations, hein, qu'on a envie de vendre de manière constructive, j'ai l'impression que même à l'apéro, même le samedi, même le dimanche, bah, y a la possibilité, on va dire, d'entrer en affaires, même de manière complètement imprévue.
Oui, je trouve très intéressant ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté de confiance. C'est vrai que moi, si je rencontre une personne bien comme toi, Marco, qui est là, où je vois une possibilité que ça intéresse aussi l'autre partie. Toi, tu as des produits ou tu recherches des produits et c'est vrai que ça pourrait intéresser Dinedeal. C'est clair que c'est presque du win-win de les mettre. Toi, tu vas passer pour un baron envers ton pote et puis en même temps, tu vas faire plaisir à un autre. Et ça, c'est quelque chose de bien. Ce que je pense, c'est que ça se les gens le font, mais le font aussi parce qu'ils voient, ils te connaissent, ils te font confiance et puis ils voient que ce que tu as à offrir peut plaire à l'autre. Je le trouve très, très intéressant. Et ça nous fait passer au défi de la semaine, Marco, que tu as choisi cette fois-ci.
Oui. Alors, je vais vous lire la question, hein, parce qu'on l'a posée de manière intelligible. C'est dans quelle situation insolite penserez-vous opportunité ? Voilà, maintenant vous avez compris à travers deux exemples que finalement, c'est pas parce qu'on a rendez-vous, qu'on est payé dans le cadre des 8h30 qu'on doit faire chaque semaine pour vendre, qu'on va vendre. Il arrive simplement qu'on parle d'un point A et que c'est en mentionnant B qu'on renforce A tout en se créant une nouvelle opportunité. Et donc à partir de là, quelles sont les situations privées ou professionnelles dans lesquelles vous aurez réussi à penser opportunité et du coup avoir cette sensation de pied dans la porte qui fait que y a une nouvelle vente qui est peut-être au bout.
Voilà. Alors la prochaine fois hein, que vous êtes comme ça en train de faire la file un peu de manière discrète à votre magasin du coin et tout, vous vous retournez de la personne derrière vous et vous commencez à lui parler ou alors vous parlez gentiment à la personne devant vous. Bon, peut-être pas parce qu'elle est stressée puis elle va vouloir absolument y aller, mais vous faites l'effort de parler. C'est un bel effort. Ou alors si vous voulez rien vendre mais juste être sympa, parlez à la personne qui est derrière la caisse enregistreuse. Dites-lui bonjour justement. Faites-lui un sourire. Moi, je parle souvent avec ces personnes-là, juste un petit clin d'œil. Et je connais des personnes qui ont travaillé beaucoup derrière ces caisses enregistreuses. Elles me disent à quel point les gens peu disent bonjour, merci, beaucoup. Peu, même, ont les politesses de base. Donc, voilà. Alors, pensez à ces situations insolites et je suis sûr qu'en parlant autour de vous, forcément, vous trouverez une opportunité pour vendre. Très bien. On devrait passer au Weekly News, mais finalement, Marco, j'ai envie quand même, parce que ça a un petit intérêt pour moi, parce que vous savez qu'on aime bien la radio, et puis tu as un petit truc sur les digitalradios.ch de Genève, que je trouve très intéressant. Donc, allez, une dernière petite expérience et on passe au Weekly News.
Allez, on y va. Ok, donc je me dépêche sur celle-ci. En fait, vendredi, il y a 3 jours, j'ai eu l'occasion d'avoir une séance de coordination avec 12 nouvelles radios DAB. Donc, la radio DAB, c'est la radio digital. C'est un petit peu l'équivalent de la TNT, mais pour la radio.
Ça, c'est bien dit. Ça, c'est exactement comme ça que tu dois décrire la Digital Audio Broadcast. La TNT pour la radio, c'est exactement ça.
Et donc, on va dire que dans ce cadre-là, il y a 12 nouvelles radios qui arrivent à Genève. J'ai des activités également dans le domaine de la radio, notamment au sein du comité d'une association qui s'appelle LIMUS, qui est une association fêtière pour la promotion du DAB en Suisse, et qui a organisé une campagne de communication autour de ce nouveau bouquet de radio. Donc en fait, la difficulté en Suisse, comme dans d'autres pays, c'est une difficulté à comprendre ce qu'est le digital audio broadcast et du coup à avoir un intérêt de la part du public. quand on s'adresse aux personnes, elles ne savent pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit, et puis finalement, elles s'en foutent un peu. Voilà. Et donc, comment faire pour rendre ce sujet attractif, hein, parce que à nous, il nous intéresse, ben, je crois que c'est en sortant un petit peu des sentiers battus, d'autant plus quand on a peu de budget. Et c'est vrai que ce qu'on a fait dans le cadre de ces 12 radios qui débarquent à Genève, sachant qu'on a un autre volet à Zurich, qui est la plus grande ville de Suisse, qui va arriver d'ici 2 à 3 mois. Donc, c'était un petit peu une campagne pilote qu'on a adoptée à Genève. Ben, c'était simplement en étant irrévérencieux jusqu'à une certaine limite et en ne parlant pas que de radio. Donc, il y a un site internet qu'on va mentionner sur notre page Nip Sales, qui s'appelle digitalradios.ch. Donc, digital, c'est comme A2L, c'est comme tous. Hein. Donc, digital radios, qui est un jeu de mots pour signaler, bah, c'est toutes les radios qui se mettent ensemble pour communiquer. Donc, je dirais que le premier ingrédient, c'était en fait d'avoir un maximum de personnes autour d'un projet. Et c'est vrai que si vous allez sur le site internet, ce que vous verrez, c'est en fait ce bouton on, hein, le bouton on-off qu'on a sur la chaîne IFI ou sur des autres devices électroniques qu'on a un petit peu revisité. Donc, il faut imaginer que la partie arrondie, hein, ce cercle qui n'est pas tout à fait fermé, restait à peu près identique. Hein, ça représente la ville dans laquelle on arrive avec 12 radios. Hein, et sinon, bah, y a un joli spermatozoïde, hein, qui est venu féconder, on va dire, ce on, hein, qui est censé symboliser la patate qu'on ressent, hein, l'idée de faire de la radio, hein, et on va dire ce symbole qui a été vraiment considéré comme très fun, hein, les gens ont beaucoup apprécié, c'était ce qu'on appelle en marketing un stimulus ambigu, que vient faire un spermatozoïde et un signe de fécondation pour des radios digitales qui arrivent dans une ville. Et c'est vrai qu'on a encore la couleur orange, hein, très très flashy comme ça, qui vient un petit peu redonner de la couleur à tout ce message. Et donc, si je résume, on a une campagne sur Digital Radios qui est un nom qu'on veut aussi fort que possible, plutôt que de communiquer sur 12 noms de radios différents qui en plus sont pas connus, qui auraient fait, en fait, qui auraient dissipé un petit peu le message principal qui se veut, genre, être, ouvrez les guillemets, on a des nouvelles radios à proposer, voilà, écoutez-les. Et donc, on a des nouvelles radios à écouter, on a voulu le rendre sympathique avec une couleur orange et puis un spermatozoïde qui rappelle, allez, des tas d'autres trucs de type sexuel qu'on peut faire le soir avec ou sans lumière. Et à partir de là, on va dire un dialogue qui se lance autour d'un sujet qui est très fun et qui du coup appelle davantage un public plus jeune, qui est justement celui qui n'en a à peu près rien à foutre du DAB. Et donc, c'est une campagne qui commence. Moi, je vous tiendrai au courant des résultats, hein, qu'on peut imaginer. Je dois dire que ce qui me fait très plaisir, c'est que pour l'instant, les radios adhèrent complètement au projet. Et c'est vrai que s'adresser à des radios qui sont celles, hein, qui doivent profiter de cette campagne, mais qui en plus aiment tellement qu'elles y adhèrent et qu'elles sont prêtes à aider, eh ben, on se sent déjà un petit peu moins seul. Donc, c'est vraiment un départ qui est très positif.
Ouais, très bien. En plus, on te voit dans la vidéo que j'étais en train de lire comme ça pendant que tu parlais. Très cool. C'est vrai que là, on arrive à un point qui est de vendre quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et ça, c'était un point dont on avait parlé une fois sur Nip Sales en disant, nous, on avait vendu des petits trucs que tu collais à ton téléphone et puis qui faisaient de la lumière quand il y avait un téléphone. Ça, c'était avant les smartphones. Et on prenait beaucoup de temps à expliquer les choses alors que ça coûtait que 10 balles. Et finalement, le challenge quand on parle d'une chose comme le DAB, c'est de faire comprendre aux gens ce que c'est et de manière facile et de manière ludique. Et je trouve le site vraiment cool, bien fait, nickel, bravo. Je me réjouis de voir le succès de ça. Tu nous tiendras au courant, Marco, j'imagine.
Mais naturellement, et ça me rappelle une chose, ça me rappelle l'époque où je vendais de la BD dans la rue. Et je crois que les gens s'en fichaient pas mal. Hein. C'était pas facile parce que là, on est dans un moment où ils n'ont pas prévu d'acheter quelque chose. Donc, c'était pas évident, hein, de retenir leur attention. Puis au final, ceux qui achetaient, ils n'avaient pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils filaient 10 balles, mais ils trouvaient que la prestation avait été assez bien exécutée. Et puis, ils avaient envie, d'une certaine manière, de récompenser un petit peu un acte de vente qui s'était bien passé, où ils avaient eu du plaisir. Et moi, ce que je me dis, c'est que si on arrive déjà à apporter du plaisir pendant l'acte, t'imagines ce que ça peut donner après.
Ah, très bien, super. Ben, on va passer aux weekly news. Alors, les weekly news, très cool. On va faire un petit feedback. T'es allé à l'ICOM. L'ICOM, c'est quoi? C'est le salon e-commerce de Suisse romande qui a lieu à Genève chaque année. Tu y es allé avec en compagnie de Julien, je crois, même de Ben.
Oui.
Donc,
oui.
En deux mots, là, dis-nous bien, pas bien.
Alors, en deux mots, j'aurais dit pas bien, mais je tiens à dire que je suis déçu en bien, donc ça va encore.
Alors, explique-nous, ben, tu vois, tu es une personne qui connaît la vente, qui connaît le commerce, mais qui connaît le monde digital sans vraiment être technique. Donc, qu'est-ce qui t'a peut-être pas plu dans un salon comme l'e-commerce qui parle ben, d'e-commerce, comme ça, comme son nom l'indique?
Comme son nom l'indique, je vais te dire ce qui m'a pas plu, c'est que, en fait, je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Voilà, je suis arrivé dans un endroit où il y a énormément de monde, où le flux de personnes, le flux qui est à suivre est pas toujours clair, mais ça, à la limite, c'est normal, on est dans une foire. Par contre, c'est une foire où il y a mais de multiples stands qui sont minuscules. Hein, ça arrive dans des foires qu'il y a des petits stands qui sont plutôt dans les abords comme ça. Et puis on a les stands principaux qui sont soit à l'entrée, soit vraiment au milieu de l'étage qui doit normalement représenter plusieurs centaines de mètres carrés. Bah là, on était bien dans une halle où il y avait plusieurs centaines de mètres carrés, mais avec, je dirais, des dizaines, je dirais, je pense, plus de 100 stands qui devaient faire tous entre 3, allez, entre 8 mètres et 15 mètres carrés maximum de surface. Donc plutôt des petits stands, hein, toi, Michael, qui a l'habitude des stands de foire, et qui avait, on va dire, deux roll-up, deux bannières comme ça, verticales, devant le stand, qui avait très très peu de place pour expliquer ce qu'ils faisaient. On est évidemment dans le digital, donc il n'y avait pas des masses de papier non plus où on pouvait se servir. Et puis moi, si je te résume, j'ai à peu près pas compris ce que les gens venaient proposer. Donc c'était très difficile pour le commun des mortels simplement de comprendre qui est-ce qu'il avait face à lui, quoi. Et moi, c'était un petit peu ma frustration, c'est que sur le titre d'une entreprise et sur voilà un espace de 8 mètres carrés, de ne pas comprendre, on va dire, ce qu'ils avaient à proposer, ce qui fait que tu passes ton chemin assez
Oui,
rapidement, quoi. Finalement, il y a peu de temps, je me suis arrêté.
c'est comme, et tu sais, c'est marrant que tu expliques comme ça parce que j'avais déjà parlé de l'Internet Retailing Expo à Birmingham où j'avais été. J'avais eu un peu cette même sensation. Le premier passage n'avait pas du tout été, voilà, waouh, il fallait gratter, il fallait aller vraiment dans les détails, regarder les choses. Ah, je voudrais voir cette personne, cette personne, cette personne-là pour comprendre le message. Si tu faisais que passer, tu passais à côté de plein de choses qui auraient pu être intéressantes pour toi. Je pense que ces gens du digital sont pas très bons à communiquer dans des foires comme ça. Déjà, un, je pense que le produit, des fois, peut être compliqué, difficile ou qui répond à une problématique, à un problème niche que peut-être certaines personnes ont, mais ils répondent pas au problème du e-commerce globalement. Et ça, c'est pas facile à comprendre en passant comme ça. Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est que là, j'ai relancé mon nouveau site web cette semaine avec l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ça a été un travail d'une année, donc un énorme boulot. Et maintenant, après, voilà, le lancement de ce nouveau site, l'e-commerce qui va avec et tout ça, je vois la complexité du monde de l'e-commerce de plus en plus. C'est que finalement, quand on dit e-commerce ou quand on commence un élément en dessus, on pense à digital. Donc, digital, tout ce qui n'est pas papier. Dans le monde de l'e-commerce, il y a tellement de choses de choses différentes que ça devient des nouveaux métiers où on n'a pas encore totalement fait le tour. Je m'explique. Je lisais un article qui parlait d'e-commerce, qui dit, ben voilà, pour faire du e-commerce, voilà les différentes personnes dont vous auriez besoin ou les différentes fonctions dont vous auriez besoin. Première, Customer Acquisition Manager, donc quelqu'un dont le but est d'acquérir des clients. Faire des Google Ads, des choses, des ci, des ça. Voilà, ça serait un. Deuxième, un Customer Conversion Manager, c'est-à-dire de pouvoir, une fois qu'il a cliqué sur votre ad, de pouvoir convertir la vente en une vraie vente, quoi, en du cash. Après, un Customer Retention Manager, c'est-à-dire le but, c'est de retenir le client le plus dur, le plus longtemps. Et c'est aussi, quand on a vendu une fois au client, de lui revendre aussi derrière et puis de réfléchir à des possibilités comme ça. Autre, important, content and category manager. Donc, on sait que le content est hyper important. Les blogs, tout ça nous font vendre, pas seulement les Google Ads et d'être bien placé dans les recherches Google. Donc, créer du contenu est aussi bien. Et dernière, allez, après je m'arrête parce que ça devient compliqué. Operation manager, quand on dit operations, on parle de tout ce qui est IT, tout ce qui est développement, tout ce qui est tout ça qui permet finalement de faire tout ce que j'ai cité avant. Et je pense que ce monde de l'e-commerce, il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers, qu'on qu'on ne voit pas partout et en fait on doit réapprendre à faire du commerce, selon moi.
Alors ça, pour moi, c'est une chose. Puis j'aime bien parce que c'est très factuel, hein, la manière dont tu le poses, c'est très fonctionnel. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression que le monde de la foire, tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, il n'est pas adapté au monde du e-commerce, qu'il faudrait simplement avoir un concept de foire qui permette d'englober les spécificités du e-commerce. Hein. Tu viens de dire que c'était quelque chose de très spécifique. Moi, ce qui m'étonne, c'est de ne pas voir les outils, tu sais, par exemple, d'avoir des projections plutôt que d'avoir du papier, d'avoir en fait des éléments qui correspondent à la dématérialisation du e-commerce. Mmh. Et puis, c'est clair que c'est très difficile de faire une foire, j'ai envie de dire, standard, hein, parce que c'est ça le e-com, c'est finalement une foire, tout ce qu'il y a de plus standard sur un monde dématérialisé, oui, qui est celui du e-commerce. Oui. Et je dirais que dans ce fouillis, parce que pour l'instant, c'est simplement pas clair, hein, cette foire e-com. Donc, je suis pas là en train de casser du sucre sur e-com. C'est simplement pour dire que j'ai passé un bon moment, mais dans un endroit qui était pas très structuré au niveau des stands. Je dois dire que j'espérais qu'il se rattrape sur les conférences qui étaient vraiment très, très bien remplies. Et moi, mon petit doigt me dit que cette conférence, elles étaient bien remplies. Pas tellement parce qu'elles étaient de bonne qualité. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de feedback négatif sur la qualité des conférences. Il y en avait un très grand nombre. Mais je pense que les gens ne savent tellement pas quoi faire autour des stands qu'à un moment, ils se dirigent tous vers les conférences. Moi, je peux vous dire, chers intéressés potentiels à une conférence, si en plus vous êtes un moyen bon ou un bon pitcher, en gros, vous aurez tout le monde à votre conférence à l'e-com l'année prochaine s'il reste avec une foire comme celle-ci. Et à mon avis, il y a une vraie opportunité pour, un, avoir une foire où on a des stands qui sont structurés de telle manière à ce qu'on tienne compte du côté dématérialisé. Alors moi, j'ai pas la solution, mais on va dire que si vous me payez un tarif horaire qui reste encore à définir, je peux tout à fait y réfléchir. Je pense que c'est un événement qui a du potentiel. Le deuxième point, c'est simplement d'orienter les gens vers des conférences qui les intéressent. Voilà, la conférence est dans l'air du temps. Tu as les fameuses keynotes d'Apple, tu as les keynotes de TED. Donc, c'est ces formats en 18 minutes ou 15 ou 25 minutes que les gens adorent. Et qui plus est, ils tweetent beaucoup ou ils parlent beaucoup de ces conférences pendant qu'elles ont lieu. Donc, c'est tellement un relais d'image qui est directement généré par les utilisateurs qui sont vos auditeurs du moment, que pour moi, ça vaut vraiment la peine de comptabiliser des moyens de ce type-là comme soit des moyens business to business, soit business to consumer. Par contre, il faut juste pas que vous mettiez le gars qui bégaye dès qu'il dit bonjour. Voilà, c'est un orateur dont on a besoin. Et je dirais qu'à partir de là, on peut en faire un canal de communication à part entière.
Très bien. Bon, ben, j'espère que quelqu'un de l'e-com nous entendra. Moi, je pense un des éléments aussi dans toutes ces conférences, c'est de les rendre digitales, c'est-à-dire de les faire accessibles à l'extérieur sans être obligé d'être physiquement là. Mm-hmm. Les Américains sont très bons là. On voit TechCrunch Disrupt. Toutes les conférences qui ont lieu technologiques maintenant sont aussi online et les gens peuvent regarder les vidéos, regarder les choses et participer finalement à la vie de la conférence sans être physiquement là. Et ça, je pense que c'est aussi un élément. Allez, assez parlé d'e-com. J'ai la voix qui commence à changer, dis donc. J'ai trop parlé, Marco, je vais devoir te laisser parler. Et c'est bien, parce que la deuxième news, c'est quoi ? C'est une app que j'ai trouvée cette semaine, que j'ai trouvée intéressante. Je ne l'ai pas testée personnellement, mais je te la pitch et tu me dis si tu la trouves intéressante. Alors, c'est une app faite pour les vendeurs qui vont, ou les merchandisers vendeurs qui vont dans les magasins, comme les magasins de, on va prendre, de food pour placer leurs produits. Et c'est une app qui permet de mettre son POS dans l'enceinte du magasin. C'est-à-dire, avec une app sur iPad, on fait une photo de magasin, on place après les POS qu'on a développés ou qu'on a mis en photo dans cette app et automatiquement, le responsable peut voir la gueule que ça a, peut voir les proportions, peut voir les choses et on peut lui montrer ce qu'on fait au niveau point of sales au lieu de lui le dire ou de lui l'expliquer. On peut le mettre en situation. Tu achètes ou tu achètes pas ?
Alors écoute, moi j'achète parce que je sais que ça correspond à un besoin qui permettrait d'éviter pas mal de discussions autour de où est-ce qu'on le place. Donc là en fait on parle, vous savez, ces fameux displays. Des fois on a des displays, donc c'est comme du mobilier en carton sur lesquels on peut poser des produits. En général c'est des produits promotionnels. Par exemple les œufs de Pâques, hein, on les place dans ces étagères en carton qui sont placées par exemple au milieu du magasin. Et la difficulté, c'est parfois de savoir exactement où on le place dans le magasin. Et je dirais que ça peut autant être difficile quand on négocie, par exemple, auprès de la centrale d'un réseau de distribution avec lequel on négocie des conditions, que quand on doit le placer une fois négocié dans le magasin. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord avec un acheteur dans la centrale et ensuite on doit négocier l'emplacement, par exemple, dans la station-service ou dans le magasin avec le gérant qui s'occupe du point de vente. Et je dirais qu'avoir un outil assez simple. Quand je dis assez simple, c'est que finalement, vous téléchargez une application, hein, soit pour votre iPad, soit en fait une autre tablette qui sont de plus en plus utilisées par les représentants. Vous avez ensuite, vous uploadez le 3D, c'est-à-dire le display en 3D que vous voudriez visionner hein, à travers cette application. Puis finalement, vous uploadez également une image en 2D qui est en fait une forme de carton, quoi, de carton fixe que vous pouvez positionner comme ça dans un endroit ou dans un autre, mais dans la vraie vie. Et puis à un moment donné, en fait, là où vous positionnez ce carton en 2D, par exemple, eh ben c'est là où se placera votre objet en 3D. Et donc de manière très très simple, vous pouvez devant quelqu'un qui prend la décision lui dire bah voilà où est-ce que moi je vais placer mon display sans avoir, on va dire, à monter le display ni avoir à placer des produits dessus. Parce qu'en général, très intelligent, le gérant a la possibilité de décider une fois que le travail est complètement fait. Non, désolé, j'aurais préféré que vous mettiez des granini multifruits plutôt que des granini orange une fois qu'il y a les 216 bouteilles qui sont placées sur le display. Ou alors de déplacer le display de 3 mètres alors qu'avec toutes les bouteilles dessus, il va se renverser. Et donc, c'est des choses qui sont très très bêtes mais qui prennent beaucoup de temps. Et moi, je pense que des fois, apporter cette forme de technologie qui amène un « wow effect », hein, « wow, qu'est-ce que c'est joli », eh ben ça fait, on va dire, conclure plus rapidement la vente, même si ça reste qu'un artifice. Donc moi, les gens qui me disent que c'est un gadget, je leur répondrai oui, mais c'est un gadget qui va me faciliter la vie. Et c'est pour ça que je réponds oui également à ta question. J'achète.
T'achètes. Eh ben c'est bien. Je trouve aussi bien parce que ça fait rentrer le vendeur aussi dans un monde moderne. On pense souvent, ouais, old school, papier, machin. Et ça, ça lui donne un vrai instrument que lui trouve utile. Et souvent, dans la vente, on est là, ok, à essayer de lui faire utiliser des gadgets, alors que si on lui donne un outil qui lui est vraiment utile, il l'utilisera. Voilà. Très bien. Alors passons à la dernière news. La dernière news, c'est tout simple. C'est un blog que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant, qui dit est-ce que on est à la fin du checkout au niveau du retail? Donc on sait qu'est-ce que c'est un checkout au niveau du retail? C'est le fait qu'on paye. On paye à la sortie du magasin. Normalement, ben voilà, on a notre gentille personne ou gentille caissière à l'extérieur avec lequel on peut s'exprimer, lui dire bonjour gentiment, comme on a dit avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tendance à le voir disparaître. Et la question, c'est est-ce que ce mode de paiement va totalement disparaître? Dans ce blog-là, ils expliquent l'historique. Ils disent qu'à avant, une personne n'allait pas chercher lui-même les articles. Avant les années 50, on arrivait et c'est le retailer qui nous disait exactement, ok, vous voulez des bananes, vous voulez de l'eau, vous voulez ci. Il nous donnait les articles et après, il nous les mettait et après, il nous les donnait et on les payait. Mais après, pour baisser les coûts.
Mais rassure-moi, tu t'en rappelles aussi, Michael, parce que finalement, nous, quand on était petits, c'était encore comme ça. Hein.
Moi, je m'en souviens pas, non. J'ai toujours été dans des magasins où je me baladais et puis je prenais les trucs dans mon chariot, puis à la fin, ben, je payais. Donc, je ne me souviens pas d'avoir été dans un magasin, peut-être en Italie, Marco.
Oui, bah, c'est un petit peu la honte, mais c'est ça la différence. C'est-à-dire que quand j'étais en Italie, étant petit, hein, donc je rentrais 3 semaines, 4 semaines en Italie, parce que mes deux parents sont italiens, c'était effectivement comme ça.
Oui, mais finalement, je ne trouve pas ça faux, puisqu'on avait une relation avec le client, ça prenait plus de temps. Après, on a voulu baisser les coûts, donc forcément, on a eu des grands étalages où le client se sert lui-même et après paye. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce check-out, cette espèce de dernière barrière à l'entrée? Et eux, ils disent, avec la venue des petits beacons, des petits trucs Bluetooth qu'on aura sur nous ou du smartphone, pas de souci, ça va arriver et on n'aura plus du tout besoin de payer. Donc, on peut s'imaginer rentrer dans le magasin, prendre des Nike, automatiquement se barrer avec sans rien payer et ça sera automatiquement débité de notre compte parce qu'il aura remarqué. Est-ce que toi, tu signes à ça et est-ce que tu vois cette technologie dans un futur proche, Marco?
Alors, tu sais quoi, là, je ne vais pas signer, donc je dirais non. C'est pour des raisons qui me sont très, très personnelles. Et je crois que mon nom n'empêchera pas le bateau d'avancer malgré tout. Ça me fait penser un petit peu au McDonald's, où à un moment, j'étais derrière une file énorme Il y a quelqu'un, une collaboratrice du McDonald's qui m'a demandé si je voulais commander à travers de la borne, hein, qui avait juste à côté, où elle, en fait, prenait également des commandes qu'elle retournait ensuite en cuisine. Et j'ai dit que je ne commanderais pas par la borne. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, bon, ben, je ne souhaite pas m'exprimer. Et ensuite, elle a pris la commande sur son petit appareil. Donc, ça m'a bien arrangé puisque finalement, j'ai été servi. Alors, pourquoi est-ce que je n'aime pas ces bornes qui remplacent des humains? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je vois, comment dire, avec mes vrais yeux, dans la vraie vie, des gens qui n'ont finalement plus de travail avec leur niveau d'éducation, puis leur niveau d'expérience, parce qu'une borne pourra le faire mieux qu'eux à leur place. Voilà, donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, les gens qui vous servent dans des stations-service, au McDonald's, à la Migros ou à la Coop, donc qui sont des retailers en Suisse, eh ben ils ont un niveau de formation qui est assez proche de la base, et qui fait que s'il n'y avait pas ces emplois-là, eh ben ce serait encore un peu plus difficile pour eux d'en trouver un autre. Et je dirais que même si ces emplois sont assez mal payés, on remarque que, par exemple, pour les gens qui sont plutôt des étrangers, bah, c'est une manne qui est hyper intéressante, notamment pour les femmes, hein, qui socialement ont plus de difficultés à trouver du travail. Je pense que c'est proportionnellement encore un plus pour ces femmes que de travailler dans leur situation en comparaison avec les autres femmes. Et donc, de ma perspective, retirer ces emplois qui sont très intéressants pour les gens qui ont une éducation proche de la base, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas à faire, même si je sais que c'est inéluctable et que donc nous allons bientôt tous être remplacés par des robots.
Alors, ouais, ça c'est un point de vue, comme ça nos auditeurs voient qu'on peut être vendeur et avoir une fibre sociale, hein. Marco est un bon exemple. la chose que je dirais, moi, c'est comme, à l'époque on avait des calèches, et après est venue la voiture. Donc finalement, non, il ne faut pas enlever les calèches, car les calèches donnent du travail aux gens et donnent du travail aux gens qui s'occupent des chevaux, de ci, de ça. Et finalement, le taxi l'a fait tout autant. Moi, je pense que c'est la technologie. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a des gens peut-être qui ont moins de connaissances ou moins de compétences qui sont des fois derrière ces caisses. En même temps, moi, je pense qu'on peut utiliser leurs compétences d'autres manières, c'est-à-dire en essayant de mettre des choses différemment à l'intérieur des magasins. Et je pense pas qu'on est obligé d'avoir ces gens derrière des caisses pour le faire. Je suis sensible aussi à la fibre sociale, dire de faire attention, de pas tout remplacer par des robots, mais je pense qu'on peut utiliser leurs compétences d'une autre manière que derrière une caisse.
Voilà. Oui, de manière encore plus débile que derrière une caisse, oui, Mike. Je suis d'accord, ça reste du domaine du possible, mais bon. Okay. On va utiliser une demi-cellule cérébrale au lieu d'en utiliser une entière. Je te l'accorde. Tu as raison. Ça reste du domaine du possible.
Alors,
bon, point suivant, avant qu'on se jette au cou de l'autre. Ou...
Non, comment mais non. C'est tout bien. On a passé. À chaque fois, vous savez que c'est le chiffre magique de 3. Normalement, on fait 3 news, 3 weekly, 3 news, 3 expériences. Là, on a été un peu plus long. On est déjà à 47 minutes. Donc, on avait beaucoup de choses à dire cette semaine. On va donc passer au Nip Sales Insight. Insight, c'est quoi? C'est des insights qui vous aident à réfléchir, qui nous aident à réfléchir. Et c'est préparé par Marco. Donc, Marco, je te laisse la parole. Vas-y.
Bien. Alors, on va calmer le jeu avec deux insights, ce qui fait que ce sera pas la section la plus longue aujourd'hui. Ce sera un livre et puis une quote. Donc, un livre dont tu as déjà parlé, Michael, et que je me permets de ressortir pour la simple et bonne raison que j'ai l'occasion de le lire en français. Vous voyez tout le titre là? Ouais, juste. Qui a piqué mon fromage? Donc, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi, j'avoue que j'ai plutôt bien aimé. Je suis en train de le lire actuellement. Donc, Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson, qui avait fait, sauf erreur, Le Minute Manager, qui était un autre livre qui avait une qualité, c'est qu'il est lu vraiment extrêmement rapidement. Voilà, c'est vrai qu'on doit payer quoi, un peu plus d'une vingtaine de francs, sauf erreur, pour Qui a piqué mon fromage. C'est moins de 20 francs pour Le Minute Manager. Ce qui est assez sympa, je dirais, avec ce genre de livre, et après tu me diras ce que t'en penses, toi, Michael, c'est qu'on peut être nourri. Voilà, on peut être nourri d'input qui peut vraiment nous servir dans la vie dans notre vie de tous les jours, avec quelques heures où, en fait, on se divertit avec un livre qui est fait de manière sympathique, qui fait souvent sourire. Donc là, pour faire le pitch en quelques secondes, on parle de de quatre souris, hein, on va dire deux souris et deux mini humains, hein, qui ont la taille d'une souris, qui sont dans un labyrinthe et qui un jour, oh mon Dieu, ne savent plus retrouver leur fromage. Et donc il y a une manière instinctive de retourner à son fromage, hein, sachant que le fromage c'est ce qui nourrit, hein, dans cette histoire également. Puis une manière un peu plus intellectuelle de fonctionner. Et puis je dirais que le mélange des deux, c'est finalement ce qui fonctionnera peut-être le mieux. Et il n'y a pas de révolution, hein, dans les messages qui sont donnés. Je dirais plutôt que c'est souligner, c'est mettre l'accent sur certains messages dont on peut avoir oublié la substance ou l'importance de la substance. Et puis, bah, puisqu'il existe en français, ça nous évite simplement se creuser la tête le soir dans une langue, même l'anglais, que tout le monde parle naturellement, mais qui peut en fait simplement fatiguer un peu plus. Donc, soyez flemmards de temps en temps, puis faites-vous plaisir avec un livre qui est vite lu, comme « Qui a piqué mon fromage » de Spencer Johnson.
Oui, et dernière petite chose que je trouve qui est correcte, c'est le côté ludique. Avoir parlé de psychologie ou de psychologie humaine en des termes compliqués ou en des termes plus théorique ou plus universitaire m'ennuie au plus haut point. Donc ce que moi j'aime, c'est trouver des choses qui vont me parler de cette psychologie humaine, qui vont me parler des opportunités, mais de manière ludique. Et ça, je trouve que les Américains savent bien faire. Donc il faut leur laisser ça. Ils font pas tout juste, les Américains, mais ça, ils sont meilleurs que nous en Europe, où nous on a tendance à être un peu plus théorique. Donc oui, si vous l'avez pas lu, allez le lire. Qui a piqué mon fromage? En 1h30, c'est torché, mais puis vous allez bien vous marrer. Donc, faites-le. La quote, Marco, vas-y.
Oui, alors, une quote de Oscar Wilde, une fois n'est pas coutume, en anglais. Alors, tu vas me la traduire droit derrière, Michael. Ouvrez les guillemets. Be yourself, everyone else is already taken.
Soyez vous-même, car tout le monde et tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde.
Alors moi, j'aime bien cette quote parce qu'il est vrai que, par mon passé, mais c'est encore quelque chose que je fais aujourd'hui, je peux m'inspirer des personnes, ce qui est assez bien, mais tout d'un coup, je peux être un petit peu jaloux d'elles. Tout d'un coup, je voudrais m'identifier au point que je voudrais presque être elles. Et ça peut être eux, hein, aussi d'ailleurs, hein, quand on est à la recherche de modèles. Et je crois que la chose la plus intelligente qu'on ait à faire, qui devrait aussi être la chose la plus naturelle, c'est simplement se chercher soi, se comprendre soi-même. Et en étant soi-même, je pense que c'est comme ça qu'on pourra le mieux interagir avec les autres. Hein, c'est-à-dire leur piquer la place, ça peut être un petit peu irritant, ou ça peut être juste déplacé ou illusoire. Et je dirais que être soi-même, c'est ce qu'on peut attendre de mieux pour soi-même, c'est ce que les autres peuvent attendre de mieux pour soi-même, et c'est ce qui finalement amène, à mon sens, le plus grand résultat.
Oui. Non, j'aime beaucoup cette quote que je connaissais, j'avais déjà lu. J'aime beaucoup Oscar Wilde, on sait que c'était un auteur un peu fou comme ça du 19e siècle anglais. En plus il était homosexuel dans un siècle qui ne les acceptait pas tant bien que ça. Donc il savait de quoi il parlait, notre ami Oscar Wilde, quand il disait ça. J'adore l'idée, j'adore le concept. Après je pense que voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas changer, ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se surpasser. Je pense juste qu'il ne faut pas essayer de copier et d'être quelqu'un d'autre. Il faut être soi-même avec ses avantages comme ses défauts, mais toujours en essayant de se surpasser. Donc j'adore la quote. Merci Marco.
Voilà. On arrive gentiment à la fin de l'émission.
Exactement. Comme à chaque fois, j'espère que vous avez passé un énorme bon moment comme nous. Comme vous voyez, ben nous on s'amuse. 10e épisode. Si vous vous amusez comme nous, ben vous pouvez nous le dire déjà. C'est très facile. Vous allez sur nipsales.com, nipsales.com. Vous tombez sur notre page, vous nous laissez un petit commentaire sur l'épisode 10, hein, comme ça nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, challengez-nous. Si vous venez nous parler en direct, facile, vous allez sur Twitter, vous faites @sydde pour me parler, ou Marco_NIP, ou alors Nipsales, ou Niptech, ou Nipcast, de toute façon je les lis tous. Ça s'appelle l'embarras du choix, et aucune excuse, et vous nous parlez, vous nous dites, ben voilà, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça bien, nous poser des questions, nous proposer des sujets, nous proposer des personnes aussi. On a dit qu'on allait regarder à l'intérieur pour essayer de trouver des personnes avec qui on pourrait faire venir son Ipsales pour grandir la communauté. Nous, voilà, c'est tout simple. Si vous voulez vraiment faire le pas de plus, parce que je sais qu'en nous écoutant, vous aimez faire le pas de plus, vous allez sur iTunes et vous laissez un petit commentaire en disant, j'adore Ipsales ou je déteste. Vous pouvez aussi laisser une étoile, mais en même temps, exprimez-vous. Donc, je voulais vous souhaiter une très bonne semaine et vous dire à dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Salut.
Ipsales.